Daiquiri.
L'émission LGBTQ, transpède des Gwyn de Reims.
Bon, surtout Gwyn.
TKR.
Daiquiri sur Radio Primitive.
Yeah, fuck you! You don't fucking know me!
And I'm as free as the wind that's blowing out on this beach.
Daiquiri.
Daiquiri.
What are you all looking at?
TKR. Bienvenue.
Bonjour.
Pour l'émission.
Hello.
De
Bonjour.
Mois d'octobre sur la radio primitive.
De Daiquiri.
Daiquiri. Je pense que vous l'avez compris.
Assez entendu dans le générique.
Au beau générique. Alors aujourd'hui, c'est moi qui suis aux commandes. J'ai peur.
Mais non, tout va bien se passer.
Il y a plein de boutons. C'est bizarre.
Oui, mais c'est trop cool. On fait des petits jeux comme ça dans Daiquiri pour se faire peur, pour changer des habitudes. Histoire de ne pas installer une routine au bout de 2-3 ans comme ça.
Après, j'ai un peu moins peur parce qu'on a des invités avec nous. Et ça, c'est cool.
Et on les connaît déjà. Vous les connaissez déjà un petit peu aussi pour partie. En tout cas.
Il y en a une, on l'a invitée il y a un an et demi, ce zoo-là.
Peut-être, oui.
Peut-être. Hein, vous reconnaissez la voix de Fanny du planning familial.
Bonjour.
Mais il n'y a pas qu'elle, Bien sûr, aujourd'hui, on a Lo qui est avec nous, notre chroniqueur préféré.
Oui, je suis de retour.
Salut Lo. Nouvelle saison radiophonique avec toi en surplus de nous. Ça fait plaisir.
Mais ça me fait très plaisir aussi.
On va faire quoi? Parce que là, on va passer un petit bout de temps ensemble sur une heure d'émission avec le planning familial, mais pas que. Du coup, comment on va...
On va cut en deux parties. D'abord, le planning familial va nous parler d'une cagnotte qu'ils vont lancer, qui est déjà être lancée, mais qui va être améliorée dans quelques temps.
Tout à fait.
Et ensuite, on ira sur une militante du planning familial qui a créé un truc assez chouette dans son collège et qui va nous en parler juste après. Comme ça, on fait plein de trucs à vous mettre dans les oreilles.
Tu peux peut-être déjà nous donner quelques billes, parce que là, c'est un peu trop de suspense.
Ouais. Tu peux te présenter aussi.
Alors, moi, c'est Kaorintina Moigne. Je suis prof d'histoire géo EMC au collège Joliot-Curie. Et l'année dernière, on a créé avec des collègues un club ado dont je vous en parlerai tout à l'heure.
D'accord. Voilà, là, c'est...
Voilà, là, c'est... Vous avez tout.
La donc, bonne suspense.
Maintenant, comme d'habitude, on va vous mettre une petite zik avant de démarrer. On va commencer...
Quoi qu'on écoute.
Ah, j'ai bien envie de commencer par cette chanson. Une des miennes. Allez, hop. C'est moi qui suis à la régie, c'est moi qui...
Tu décides.
Alors, c'est une artiste qui s'appelle Towa Bird, comme l'oiseau. Elle a commencé en 2020. C'est une chanteuse, auteuse, compositrice et joueuse de guitare. Alors, on l'a définie comme la Paul McCartney lesbienne.
Au secours.
Donc, pour les personnes qui aiment bien Paul
Ça
McCartney.
Existe.
Et donc, elle est née à Hong Kong, elle a vécu en Thaïlande et maintenant, elle est sur Londres. Elle a sorti un album. Et du coup, on va l'écouter avec la chanson qui s'appelle « Drain Me ».
Take it too far.
C'est pas bon. Du tout Paul McCartney, non, j'avoue lesbien. Que... Je veux pas...
Elle est sûrement lesbienne, mais ouais, le côté Paul McCartney...
Un Paul McCartney lesbien se cachera dans cette émission. À vous de deviner quel titre
Après, il y a peut-être d'autres chansons, j'ai pas tout écouté. Oui,
c'est vrai.
Je crois qu'il y a des trucs un peu plus folk hein, quand même. Donc, à voir.
C'est pour notre côté vieille queen.
Alors, revenons sur le thème de notre moitié d'émission. Donc, Fanny,
oui.
Qu'est-ce qui se passe au planning familial de la Marne?
Eh bien, nous avons lancé une cagnotte pour aider financièrement les personnes qui souhaitent, enfin les femmes qui souhaitent avorter à l'étranger.
Raconte-nous déjà peut-être pourquoi vous avez décidé de lancer cette cagnotte. Ça parle de quel constat? Un constat, je suppose, déjà?
Tout à fait. Chaque année, au planning familial de la Marne, on a environ 4 à 5 personnes qui viennent nous voir pour des accompagnements, pour accéder à l'avortement à l'étranger, notamment aux Pays-Bas. Et on se rend compte que financièrement, c'est quelquefois lourd à gérer pour ces personnes. Puisque l'IVG est réalisée à l'étranger, donc la Sécu ne prend pas en charge les frais qui y sont liés. Donc en gros, l'avortement, ça doit coûter à peu près 1 000 euros, grossièrement. Et à cela s'ajoutent les frais de déplacement et d'hébergement. Et parfois, c'est compliqué. Parfois, certaines ne vont pas jusqu'au bout de la démarche parce qu'elles n'ont pas l'argent nécessaire pour pouvoir s'y rendre.
En sachant qu'en France, il y a déjà eu des avancées parce que le délai était de 12 semaines il y a quelques années. On l'a passé à 14.
Tout à fait.
Mais ça reste encore un terme trop court pour certaines personnes. Quoi.
C'est ça, en fait. C'est ce que j'allais te demander. Mais pourquoi, au final, ils vont à l'étranger? C'est juste une question de temps.
Oui.
C'est ça en fait, c'est pas parce que ils sont moins bien traités en France qu'à l'étranger.
Pas du tout, c'est juste une question de délai. En France, donc, on peut avorter jusque 16 semaines d'aménorrhée, soit 14 semaines de grossesse. Ces 15 jours, on les a obtenus en 2022, si je ne me trompe pas. Et aux Pays-Bas, par exemple, l'IVG est possible jusque 22 semaines d'aménorrhée. Et parfois, des femmes se rendent compte tardivement de leur état de grossesse. Donc, le temps qu'elles enclenchent les démarches, il est trop tard en France. Donc, c'est des femmes qui ont fait des démarches trop tard dans le temps, qui s'en rencontrent tardivement, ou qui ont changé d'avis, ou qui a eu un changement dans leur situation qui fait qu'elles changent d'avis.
Ou le parcours a été compliqué, de trouver le médecin qui veut bien suivre.
Il y a ça aussi, effectivement, les délais, la difficulté. D'accéder à la bonne structure, au bon interlocuteur pour pouvoir être accompagné dans de bonnes conditions. Il y a plein de situations en fait qui fait que des femmes se retrouvent sans solution parce qu'elles ont dépassé le délai d'un jour, de deux jours, de trois jours. C'est vraiment très court en fait.
Il y a des prescriptions internationales par rapport au délai qui devrait être normalement un peu plus acceptable?
Alors, je sais qu'aux Pays-Bas, ils suivent les conseils de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise donc des IVG jusque 22 semaines d'aménorrhée.
Ouais, c'est quelque chose comme de plutôt sérieux.
Tout à fait, ouais, ouais.
Donc, on pourrait espérer un changement un jour en France, mais on se doute que, avec le fond de l'air...
oui, exactement, c'est pas gagné, quoi.
On a déjà gagné 2 semaines, on n'aura pas... Enfin, ça va être dur d'avoir plus...
Nous, notre travail aussi au planning familial, c'est de rester vigilante sur l'accessibilité à ce droit. Et dernièrement, justement, au niveau national, le planning familial a lancé un baromètre sur l'accès à l'avortement en France avec l'IFOP. Et je vous en touche deux.
Bah oui.
Et en plus, c'est tout récent. Ça vient de commencer.
Le baromètre a été réalisé en juillet 2024. Hein, et là, on a obtenu les résultats.
Ah, donc les chiffres sont vraiment super frais, quoi.
Tout à fait. Et ce baromètre a été lancé parce que on va bientôt fêter les 50 ans de la loi Veil.
l'année prochaine.
Tout à fait.
Alors, je suis sûre qu'ils vont faire plein d'événements super beaux, super shiny autour de ça, tout en ne mettant rien en place en plus. C'est un peu comme l'Octobre Rose en ce moment, quoi. Tu vois, c'est, on en parle partout. Par contre, le système de santé, on ne va surtout pas le questionner, quoi.
Ouais. J'ai pensé en venant, parce qu'il y a le parc en face de la gare qui est tagué en rose partout, et t'es là, t'es...
Effet d'annonce.
Ils aiment nos boobs, hein, c'est pour ça.
Donc, ce baromètre, alors, tu nous en parles un petit peu, des résultats ?
Des résultats. Donc, c'est une étude qui a été réalisée auprès du grand public, mais aussi auprès des femmes qui ont eu recours à ce droit. Alors, je vais vous lire la synthèse de cette étude. Donc, très fortement attachée au droit à l'avortement, l'opinion française reste vigilante quant à une éventuelle remise en cause de ce droit. 85% des personnes interrogées se déclarent très fortement attachées au droit à l'avortement. Cependant, la récente constitutionnalisation de l'avortement ne semble pas suffire à rassurer les esprits quant à son caractère irrévocable. La crainte d'une possible remise en cause du droit à l'IVG en France est présente, et particulièrement chez les femmes qui ont déjà eu recours à l'IVG. 51% contre 30% du grand public. Alors, l'accès à l'avortement est jugé facile en France, même si une part non négligeable du grand public pointe des difficultés d'accès près de chez eux.
Oui, parce qu'en ville, c'est une question, mais en ruralité, trouver un endroit où faire ça, et puis les médecins, on sait bien aussi qu'il y a des déserts médicaux. Quoi,
tout donc, à fait, c'est exactement ça. En ville, l'accès est plutôt facilité, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, c'est plus simple en ville, mais effectivement, en zone rurale, parfois, les personnes ne peuvent pas bouger, n'ont pas de mobilité, et donc là, c'est plus compliqué.
Et ça peut amener justement à dépasser le délai
tout à
qui
fait.
Est prescrit en France, quoi.
Ça peut être des exactement. Cas, que vous avez ça en fait partie, ouais, tout à fait. Alors, l'accès à l'avortement est perçu comme étant facile lorsqu'il est réalisé en France, même si dans les faits, un peu plus d'un quart du grand public relativise ce constat. Il est également intéressant de noter que les femmes ayant déjà avorté se révèlent plus optimistes quant à la facilité d'y accéder, probablement car ayant eu cette expérience, elles sont plus au fait des procédures. Effectivement, l'information, si on ne la connaît pas, si on ne sait pas vers qui se tourner, c'est pas simple.
Est-ce que c'est beaucoup de paperasse, par exemple ? Parce que je sais qu'en France, on adore la paperasse. Moi, pour diverses raisons, en ce moment, je suis dans la paperasse. Et je me dis, ça aussi, c'est un frein quand même.
Alors, c'est pas une question de paperasse, ça va être plutôt le bon interlocuteur, le bon accompagnement, et pour les mineurs, l'anonymat, qui est compliqué parfois à mettre en place par les établissements de santé. Et puis alors, cette étude aussi, elle révèle qu'il y a deux profils de femmes qui rencontrent plus de difficultés. Donc, ce sont notamment les femmes qui vivent en zone rurale et les femmes immigrées, qui n'ont pas la nationalité française.
Oui, surtout avec le débat en ce moment pour retirer l'AME, qui rendrait ça encore plus compliqué pour les personnes migrantes, quoi.
Tout à fait. L'IVG, c'est considéré comme un droit d'urgence. Donc toutes les femmes, avec ou sans papier, doivent y avoir accès. En revanche, il faut déclencher l'aide d'État médicalisée. C'est comme ça où j'inverse les mots. Mais voilà, si on remet en cause l'AME aussi, ça veut dire que ces femmes migrantes n'iront pas accès non plus.
Donc ça montre que tout le schproum qu'on a eu autour de la constitutionnalisation de l'IVG, c'est dur à dire comme mot, en fait, alors symboliquement c'était intéressant. Je sais qu'il y a plusieurs anciennes féministes qui étaient heureuses de voir ça quand même intégré dans le droit dur, on va dire, parce que elles ont vécu des époques où on faisait des avortements clandestins, tout ça. Mais au final, comme le planning a pu le critiquer à l'époque, c'est une belle idée, mais s'il n'y avait pas les moyens derrière, s'il n'y a pas le suivi, ça sert un peu à rien, quoi.
La constitutionnalisation du droit de la liberté.
Oui, de la liberté. En
d'avorter.
Les mots sont importants.
Exactement. donc c'est inscrit dans la Constitution, effectivement, mais ça veut dire que les femmes ont la liberté, ont le choix de pouvoir accéder à l'IVG, mais ça garantit pas le droit, c'est-à-dire comment on y accède et quels sont les process qui vont avec ce droit à l'avortement. Donc ça veut dire le remboursement de la sécurité sociale. À l'heure actuelle, l'IVG est remboursé par la Sécu. Ça veut dire l'anonymat, par exemple. Ça veut dire les délais qui peuvent être raccourcis. Ces conditions-là, elles peuvent être rediscutées, renégociées dans le futur.
C'est toujours le problème qu'on a l'impression sur les droits, surtout des personnes, des femmes et des personnes minorisées, c'est qu'on met du temps à les gagner et on peut les perdre aussi vite, comme on a pu voir le cas avec nos consoeurs américaines.
Tout à fait.
Qui sont obligées maintenant de quitter leur état pour pouvoir avorter avec des trucs, risquer la prison, enfin des trucs complètement dingues qu'on n'aurait pas cru voir dans ce siècle, quoi.
Ouais, ou des décès aussi. Hein.
Oui, c'est ça le retour de. Parce que faire des avortements clandestins, forcément, sans le savoir-faire, sans les normes d'hygiène, même si ça peut être fait dans des bonnes conditions, comme on l'a pu voir avec le mouvement du MLAC à une époque, mais voilà, là, quand c'est fait dans l'urgence, c'est juste dangereux pour l'enfant, pour les femmes, pour tout le monde, quoi.
Oui. Vas-y, vas-y.
Donc ce je termine juste avec les deux trois chiffres sur ce baromètre que je trouve intéressant, que vous pouvez retrouver sur le site du planning familial. Alors, quelques chiffres comme ça. 85% des personnes interrogées se déclarent très fortement attachées donc au droit à l'IVG. Cependant, 89% des personnes interrogées reconnaissent que des freins à l'accès à l'avortement persistent encore en France. 2 femmes sur 3 ayant recours à un avortement ont peur d'être jugées ou d'avoir des remarques de la part des professionnels ou de l'entourage. Et ça, je peux en témoigner, je suis écoutante aussi du numéro vert national, le 0800 08 11 11, et régulièrement, enfin tous les jours d'ailleurs, on a des appels de personnes qui souhaitent avoir des infos sur l'IVG. Et directement, régulièrement en fait, elles demandent des informations sur l'IVG et se justifient tout de suite derrière. Alors qu'on n'a pas besoin de se justifier.
Mais c'est un choix personnel.
Tout à fait. Mais encore une fois, ça veut dire que le jugement dans la société, il est toujours présent sur ce droit à l'avortement. Plus de la moitié des femmes qui ont avorté dans un établissement de santé ont dû attendre plus de 7 jours pour avoir un rendez-vous. 1 femme sur 3 a ressenti des pressions lors de l'avortement, soit de la part des mouvements anti-choix, ou alors des professionnels de santé ou de leur entourage. Et 1 femme sur 2 n'a pas obtenu d'arrêt de travail pour avorter.
Ah, c'est ça la réalité aussi, c'est que le milieu du travail, il ne s'ajuste pas non plus à cette expérience, alors que ça nécessite un congé comme n'importe quel arrêt maladie, je dirais, au final. Comment ça se fait que ce n'est pas compris, enfin, dans le milieu du travail, que les employeurs, ils se positionnent ainsi, que ce n'est pas compris dans un arrêt de travail général, en fait?
Alors, je pense que, d'une part, les femmes ne pensent même pas à un arrêt de travail. Et d'autre part, c'est plutôt les professionnels de santé qui ne proposent pas systématiquement la possibilité de poser un jour ou deux d'arrêt maladie.
Et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est dur d'en parler, donc il y a un peu, t'as peur d'être jugé par ton patron, peut-être même avoir des répercussions derrière sur ton statut dans l'entreprise.
Ah mais ça, ils ne sont pas nécessairement informés de la raison pour laquelle il y a un arrêt de travail. Il n'y a pas besoin de connaître la raison.
La personne ne connaît pas le droit, donc elle va dire, je vais devoir expliquer,
c'est ça.
Il va me dire c'est pourquoi. Et si j'en parle, ça peut être pire, la honte que la personne peut avoir. Et je sais que sur les mouvements anti-choix, il y a une loi qui a été passée contre les délits d'entrave.
Ouais.
Donc les faux sites internet qui sont faits pour empêcher les personnes d'avorter ou les actions devant les endroits où on peut avoir les informations pour justement empêcher les femmes de choisir. Mais même si ça a été voté, ça existe, je n'ai pas l'impression qu'il y a forcément beaucoup... d'antennes qui ont été détruites, de groupes comme ça qui ont été dissous ou arrêtés, quoi.
De toute manière, j'ai l'impression que remettre ça au centre du débat politique, ça vient re-questionner la pertinence de ce genre de débat. Comme nous, le mariage pour tous, ça a re-questionné le fait que est-ce que c'est légitime d'un couple homosexuel, question qui se posait. Plus, en fait, qui devait même plus se poser. On a vu revenir des bons relents homophobes suite à cela. Et je me demande si la constitutionnalisation de la liberté du droit d'IVG, eh ben, ça n'a pas fait exactement la même chose au final. C'est-à-dire, au final, l'IVG, c'est bien ou pas? Non, mais c'est pas ça la question, en fait. Et justement, eux profitent que ce pseudo-débat revienne sur le devant de la scène pour investir ces champs-là que les militants pensent acquis, peut-être. À tort, parce qu'il faut que jamais qu'on abandonne, en fait, c'est ça le truc.
Alors, avant de voir le détail de la cagnotte, on va peut-être repasser une petite musique. Mo, est-ce que tu veux présenter Compromat? Parce que je sais que tu aimes ce groupe.
Ouais, mais j'ai pas grand-chose à présenter.
En même temps, je sais qu'on y a juste 2 trucs à dire sur eux.
Ouais, Rebecca Warrior, Vitalik se retrouvent enfin une nouvelle fois pour refaire plein de dates ensemble. Et moi, je pensais juste que c'était une série de concerts qui avait dû à l'époque être annulée à l'époque du confinement. Nous, Arras, il devait venir à la Magnifique Society en 2022. Qui n'existe plus. Je devais les interviewer, j'avais très peur. Et du coup, ça s'est pas fait, vu qu'il y a eu le Covid. Et donc, moi, je me suis dit, en voyant la série de concerts, mais c'est juste qu'ils recalent les concerts qu'ils avaient pas fait. Eh ben non, visiblement, il y a d'autres choses qui se préparent, peut-être un nouvel album. Moi, j'ai
pas regardé spécifiquement là pour vous donner des infos.
Ce que j'ai lu, c'est que ça existe depuis 2019 et qu'apparemment ça s'est créé parce qu'ils se connaissaient et qu'il y en avait un peu une lassitude de ce qu'ils faisaient musicalement, parce que c'est vrai qu'ils existent depuis longtemps. Et en fait, c'est vraiment un nouveau projet, pas juste du trip de stars qui font de la truc ensemble, mais vraiment.
Bah lui, un là, truc qui va être pérenne, lui là, il a ressorti des sons et je crois qu'il a un album qui ressort cette année, Vitalik, lui, en perso, quoi. Et elle, on la retrouve plus sur.
Dans ce tir.
Oui, qui est fini, donc oui, plus est... maintenant. Oui, mais elle a signé la BO de Langue étrangère. Elle a signé pas mal de BO ces derniers temps. Elle fait encore des DJ sets. Mais il n'y avait plus de collab comme ça qui était.
Langue étrangère, qui était ton coup de cœur cinéma. Du mois dernier.
Du mois dernier. Donc, allez le voir, il est plus au cinéma. Comme tous les films de Gwyn, au bout de deux semaines, il n'y en a plus. Bon, on écoute.
Donc, ouais,
et
donc,
c'est un feat avec une vidéaste, je crois, qu'on retrouve déjà sur plusieurs singles extraits de leur nouvelle collaboration ensemble, donc sur Compromat.
Alors,
donc,
est-ce que c'est.
Virginia Ponce, je crois.
Ouais, Vinala Ponce.
Vinala Ponce, exactement.
Et un Sonia, mais j'ai pas j'ai trois petits points après. Sonia quelque chose.
Ben voilà.
Donc bah, tout de suite, Compromat.
It's mine.
Ah, il y a un petit côté techno-allemande. Et si vous voulez aller voir les clips, c'est très Mylène Farmer Core.
Bah toujours, hein, les clips de Compromat, ouais. Aller voir mater tous les clips, c'est...
C'est beau, c'est beau. Bon, on est de retour dans DKR, Daikiri, sur la radio primitive, au 92.4, avec Daikiri. Nos invités du planning familial de la Marne. Oh. Donc on était en train de parler de la cagnotte IVG qui est lancée depuis quelques semaines apparemment par le planning.
Donc ça faisait quelques mois, voire quelques années qu'on y réfléchissait. Et puis grâce à de nouvelles bénévoles qui ont rejoint le groupe, on a pu mettre en place cette cagnotte pour les IVG dès les dépassés. Et le premier événement, c'était une soirée au bar Ma bouteille s'appelle Reviens. On était invités par l'association...
Qu'en dire, c'est faire.
Voilà, merci. Et,
Qu'en dire, c'est faire.
Et donc, on a déjà récolté des sous. Il y a eu énormément de passages. Des personnes sont venues voir le site et ont donné également. Donc, ça commence à gonfler un petit peu.
Et c'était du slam, du coup, et pour chaque personne qui venait slammer, il y avait un don fait au planning, c'est
ouais,
ça
ouais.
Plus les dons pour acheter des magnifiques bracelets qui sont en vente.
Ouais. Ou des autocollants ou autres des trucs. Ouais. Et donc voilà, donc cette cagnotte, elle est lancée officiellement. Là, il nous reste encore à fignoler 2-3 trucs pour qu'elle puisse être en accès sur notre site. Donc vous aurez les informations sur les réseaux.
Et c'est une cagnotte du coup qui a une date de fin ou...
Pas du tout, elle est pérenne.
Ouais. Mérenne.
Si tu veux.
Les mots sont importants, ouais. On le disait.
On pourra donc s'en servir là prochainement si des femmes en ont besoin.
Donc si y a des personnes qui veulent organiser des événements pour récolter de l'argent pour le planning, ils peuvent vous contacter ?
Tout à fait, ou nous écrire, venir nous voir. Notre adresse, c'est planningfamilial.reims@orange.fr. Faut pas hésiter. Proposer de participer à des actions, de proposer des choses volontiers. Et puis régulièrement, on donnera des nouvelles.
Hein. Et donc là, si on veut participer à la cagnotte, on peut faire un don en payant en ligne ?
Alors, pas encore pour le moment. C'est en cours. L'objectif, c'est ça, de pouvoir communiquer plus largement. Donc, ça passe par Internet et donc des paiements en ligne. Ouais.
Et donc là, aujourd'hui, pour celles qui veulent participer, il faut passer au local du planning ?
Ouais, par exemple.
Dans les événements, etc.
Mmh. Ouais, ouais. Des prochains événements vont avoir lieu en novembre et en mars.
Il y a quoi en novembre ? Je tease déjà, là.
En novembre, donc, on va préparer avec aussi la coordination féministe des actions autour du 25 novembre, la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, oui, et des actions sont en cours, hein. Notamment aussi un cercle de lecture qui est organisé une fois par mois maintenant par le planning. C'est partie des nouveautés. Donc, les infos aussi, on va les partager. Et puis, oui, il faut venir nous voir. On a des permanences toutes les semaines à la Maison de la Vie Associative, bureau 307. Voilà, n'hésitez pas à passer.
Et de toute façon, le club de lecture, on en parlera dans l'agenda.
Ouais.
Il faut ramener son chéquier. Ça marche, les chèques.
Chèque, carte bancaire.
Ouais, PayPal.
On est équipé maintenant. Liquide, voilà. Ouais.
C'est parfait.
Donc, c'est de dons, mais qui sont...
Oui, par contre, ils ne sont pas défiscalisés.
Tout à fait.
Contrairement aux dons au planning familial en tant qu'entité.
Voilà.
Parce que là, c'est pour autre chose. Après, c'est pas grave. Hein, c'est cool de faire des dons.
Tout à fait, tout à fait. On en a besoin.
Un petit son avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Je crois que c'est une chanson à moi. Je vais vous passer Hot to Go. J'aime bien le nom. Ouais. Donc, ça, une artiste qui s'appelle Chapelle Roham. Roham, ouais. Donc, c'est une chanteuse, auteuse, compositrice américaine qui est lesbienne. Oui, moi, je ne passe que des lesbiennes, je sais. En 2020, elle a signé sur un label parce qu'elle a été découverte sur le net. Elle a un album et un EP et c'est une personne qui est aussi bipolaire et qui en parle apparemment dans ses chansons. Elle est beaucoup influencée par la scène drag, donc on va dire que son univers est très camp. Donc camp, c'est vraiment un truc très des gays, des queers. Ça date de mon époque, parce que c'est même pas avant mon époque, parce que c'est plus dans les années 80, 90 qu'on en parlait. C'est vraiment le côté totalement weird, dérision, qu'on retrouve vraiment dans l'esthétique drag queen, et elle aime beaucoup se mettre en scène là-dedans. Elle est critiquée en ce moment parce qu'elle ne prend pas position sur les élections qu'il y a aux États-Unis. Pour l'instant, elle ne dit pas pour qui voter, mais elle dit quand même qu'il faut protéger la communauté LGBT et voter pour les personnes qui protègent les personnes LGBT. Donc, on se doute un peu pour qui elle appelle au vote. Et elle a été invitée à la Maison Blanche pour faire un concert et elle a annulé en soutien au peuple de Gaza qui était à cette époque déjà bombardé par Israël. Donc, elle a quand même un petit niveau de, on va dire, de politisation.
Mais du coup, pourquoi elle fait ça timide ?
Ben, je sais pas, je ne sais pas.
C'est quoi ces gens-là ?
Et j'avoue qu'elle parle d'un concept qui m'a un peu interpellé, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Alors bien sûr, je l'ai mal écrit, donc j'ai du mal à me réécrire. Ça, c'est les impondérables du direct. Ah oui, c'est l'hétérosexualité compulsive. Où elle disait que beaucoup de personnes doivent singer l'hétérosexualité parce qu'ils pensent qu'il n'y a que ça, ou c'est comme ça qu'ils seront acceptés. Et c'est un truc que moi, j'ai retrouvé dans le concept de contrainte à l'hétérosexualité, qui est un concept qui a été développé par la penseuse Adrienne Rich, que je vous invite à lire, qui est assez chouette. Donc voilà, on arrête avec les concepts de socio-philo. Et je vous laisse avec le petit son « Hot to go ».
Effectivement. Très électro, cette programmation du mois d'octobre.
Ouais.
Alors, on t'entend plus, toi, du coup.
Si, je me suis... Ah non, je me suis pas mis à fond. Ah, c'est pour ça.
Voilà.
C'est mieux comme ça.
Super. On bascule ?
Oui, oh, la suite. Donc maintenant, on va passer sur la présentation de Teen Egg et de son groupe. que tu as créé avec tes élèves, c'est ça?
C'est ça. Alors, moi, je ne suis pas la seule à l'origine de ce projet. Donc, on est plusieurs enseignants du Collège Joliot-Curie à avoir participé à la création de ce club. Moi, en prof d'histoire-géographie EMC, mon collègue, un de mes collègues d'SVT, une de mes collègues d'anglais, et on a été rejoints en cours de route sur un des aspects du projet avec notre collègue d'art plastique. Donc c'est un club qu'on a appelé le club ado sur proposition des élèves. On a eu une petite dizaine d'élèves qui sont intervenus à nos côtés et puis qui ont beaucoup animé le club, avec 5 en particulier qui ont été vraiment extrêmement présentes et qui ont participé à toutes les actions qu'on a pu mettre en place.
Ok, c'était venu d'une volonté des élèves ou c'est vous qui avez eu l'idée?
Alors moi, c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. On en a parlé avec des élèves et finalement, en fait, on s'est rendu compte que les élèves avaient exactement les mêmes projets que nous. Et donc ça a super bien
matché.
Ouais, c'était super cool.
C'est quoi le club ado?
Alors le club ado, c'est un club qu'on a créé. Donc on se réunissait, et on va relancer cette année, mais en gros on se réunissait tous les 15 jours pendant une heure sur le temps de midi avec des élèves de 3e. Donc c'était ouvert à tous les élèves de 3e. Bon, on a eu que des filles cette année. L'année dernière, on aimerait bien que la question d'éducation à la sexualité ne soit pas que, ne repose pas que sur des filles. Bref, l'année dernière, on a eu essentiellement des filles. Et on a créé ce club à la fois pour que ces élèves-là puissent intervenir dans nos interventions d'éducation, dans nos séances d'éducation à la sexualité, notamment sur le niveau 6e. Et ensuite, on a eu un autre projet de création de distributeurs de protection hygiénique. Voilà, donc c'était ça les deux gros projets de l'année passée.
Et ils ont abouti sans problème?
Et les deux ont abouti sans problème, ouais. Ça, c'était une grande réussite. Donc on a d'abord mené les actions au sein de nos séances d'éducation à la sexualité sur le niveau 6e. Donc on cherchait des élèves un peu plus grandes, un peu plus matures, pour pouvoir intervenir pendant une vingtaine, trentaine de minutes auprès de nos petits élèves de 6e. Sur des thématiques autour de liées à la puberté. Donc, elles sont intervenues dans des groupes non mixtes, à la fois chez les élèves de 6e filles, mais aussi chez les élèves de 6e garçons. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et ensuite, donc, le projet distributeur, c'est parti d'une volonté à la fois, nous d'adultes, de constats qu'on a pu faire, mais qui finalement rejoignait aussi des besoins que ces élèves connaissaient en fait depuis longtemps dans le collège, à savoir, elles trouvaient que c'était assez difficile d'avoir accès à des protections hygiéniques. On en a à disposition auprès de nos infirmiers et infirmières, mais qui ne sont pas toujours présents au collège. Et puis, ce n'était pas forcément évident pour elles d'aller demander déjà à des adultes et puis parfois à des adultes hommes quand il n'y avait que des personnels masculins, soit en vie scolaire, soit à l'infirmerie. Voilà, donc on s'est retrouvés là-dessus et puis on a lancé le projet avec pas mal de récup. Grâce à notre collègue d'art plastique qui nous a trouvé une armoire électrique. Et on est parti avec cette armoire électrique sous le bras jusqu'au centre Syntex, où on a eu la chance de pouvoir travailler avec Benoît Grisonnet sur tout un après-midi qui nous a permis de... qui nous a appris plein de trucs techniques sur comment customiser, transformer cette armoire électrique en un distributeur de protection hygiénique. Voilà.
Et c'est vous qui l'autogérez
Ouais, c'est nous qui l'autogérons. Pour le moment, on n'est pas très au point là-dessus, notamment du fait que on n'a pas encore trouvé de financement pour alimenter le distributeur en protection. Donc pour le moment, on fait un peu avec les réserves du collège ou des collègues qui nous en ramènent. Mais un des objectifs du club cette année, plutôt du côté des adultes, ça va être de trouver des financements pérennes pour alimenter ce distributeur. Voilà.
Ouais, c'est trop cool, franchement.
Ouais.
Tu sais si ça existe dans d'autres collèges
Je sais que ça existe dans d'autres collèges. Dans le coin, je ne suis pas sûre.
Ouais.
Dans d'autres académies, dans d'autres départements, ouais, ça fonctionne. Et je sais que certains départements financent justement ces distributeurs. Donc souvent, les articles que j'ai pu lire, souvent c'était des distributeurs qui étaient installés par des entreprises. Donc je pense que le département était en lien avec ces entreprises. Nous, c'est vraiment artisanal. Donc ce sera à nous d'alimenter ce distributeur, d'auto-alimenter ce distributeur.
Ce qui est plus sympa.
Ce qui est plus sympa aussi. Et puis ça donne aussi des missions à nos futurs élèves du club ado. Parce que là, jusqu'à présent, c'était des élèves de 3e. Donc qui ont fait preuve énormément d'altruisme parce qu'elles ont créé un dispositif dont elles ne pourront même pas bénéficier. Mais elles en font bénéficier à leur successeuse, à leur petite sœur. Et c'est vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur aussi, ça. Voilà, de faire bénéficier à celles qui viendront derrière.
C'est assez fou parce que déjà, ils se saisissent de ces rencontres-là pour proposer des choses. Moi, je me souviens, ça remonte, hein, mais l'éducation à la sexualité, c'était plutôt une blague. Nous, dans les...
un préservatif sur une banane.
Voilà, et toi, comment tu vois l'apport direct des étudiants, étudiantes, des élèves, là, pour le coup, dans cette approche-là à la sexualité des jeunes? Est-ce que tu constates que, du coup, les propositions, elles sont plus en lien avec ce qu'ils se demandent au quotidien? Est-ce que ça vient combler un écart aussi chez les équipes qui aussi ont tendance à vieillir, c'est normal.
C'est vrai que nous, déjà, on est tous des équipes où on a 10-15 ans de plus que nos collégiens, donc forcément, on est en décalage. Donc on peut se souvenir de nous, nos années collège, de nous, nos années où la puberté commence, des questionnements, mais c'était il y a au moins 15 ans. Et puis je pense qu'il y a aussi des thématiques sur lesquelles les élèves d'aujourd'hui réfléchissent beaucoup plus que ce que nous, sur quoi on réfléchissait à notre époque. Et puis je pense que c'est hyper important d'avoir un peu cette éducation par les pairs, quoi, parce que c'est un langage qui est plus commun, c'est une facilité à discuter, à rentrer dans la discussion, à rentrer dans des thématiques qui sont pas forcément faciles à aborder pour des petits sixièmes. Donc de se retrouver avec des élèves qui connaissent, des grandes sœurs, des cousines ou des copines en dehors du collège, franchement ça aide vachement à parler. Et puis nous, du coup, les adultes, on peut être un petit peu plus en retrait parce qu'on a entièrement confiance aussi dans nos élèves du club pour transmettre à la fois des témoignages et aussi des informations un peu plus scientifiques, quoi.
Et si le soutien entre pairs suffit pas, ils peuvent venir vous voir justement pour avoir des aides sur des questions
Pour les petits sixièmes de toute manière, nous, les interventions des élèves du club ado, elles arrivaient au bout d'une heure et demie où nous, professeurs formés à l'éducation à la sexualité, on intervenait. Donc en fait, les élèves pouvaient de toute manière nous identifier comme des repères sur ces questions-là, et en même temps, ils pouvaient aussi identifier des élèves de 3e comme des repères peut-être plus proches d'eux et qui étaient tout à fait aptes à répondre à des questions auxquelles nous, on pourrait répondre aussi, quoi.
Et ça se chambre pas ?
Non.
Parce que, j'imagine venir parler à des petits sixièmes de sexualité, même quand on est plus grand, entre troisièmes, va faire tes cours de sexu, ça se passe comment entre eux, du coup ?
Eh ben, en fait, au départ, il y a certains élèves qui étaient un peu, qui se posaient un peu des questions, qui sont un peu venus voir le club. Ils ont vu que, on parlait vraiment effectivement de sexualité, de puberté, de questions vraiment, c'est direct, quoi. Il y en a certains qui se sont replie un petit peu, qu'on n'a pas revu, ça se comprend aussi, faut être à l'aise sur des sujets comme ça, quoi. Mais après, entre 6e par rapport au 3e, il n'y a eu aucun souci. Je pense qu'ils les voient vraiment comme les grands du collège, qu'on peut respecter et tout. Et puis c'était des gamines qui étaient hyper calées dans ce qu'elles disaient, quoi. Franchement, c'était assez impressionnante.
Puis en 6e, je pense que t'es encore trop frais dans le collège pour être un peu influencé par les... C'est en 4e, je pense que ça commence à un peu être chaud. Et du coup, t'es tout frais, t'es tout plein d'illusions. Et ça justifie que ce soit à cet âge-là aussi.
Et quand vous faites vos interventions, vous, en tant que prof, ça compte pas dans les heures de sexualité que vous êtes censé faire
Ça compte dans les 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité.
Mais tout le monde n'est pas obligé de venir à ces séances, donc est-ce que ça...
En tant qu'élève ?
Oui, en tant qu'élève.
Ça fait partie du programme obligatoire que tout élève doit avoir dans sa scolarité. Okay.
En même temps, 3 heures à l'année,
c'est ça va.
C'est sûr.
En tout cas, c'est... S'il y a des professeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire la même chose.
Bah, en tout cas, voilà, si ça vous donne des idées. Et puis sinon, je pense qu'on peut vous joindre aussi pour avoir des conseils,
sûr,
comment vous avez mis en place ça et tout.
Ah oui, bah, s'il y a des collègues qui seraient intéressés pour mettre ça en place dans leur établissement, ouais, bien sûr, je pourrais donner mes coordonnées sur le site, pas de souci.
Et bien sûr, on rappelle que le planning familial peut aussi faire des interventions dans ces genres de structures. Je cherche à te donner encore plus de boulot, Fanny, t'as vu, hein ? Je pense à toi.
Non, mais t'as raison de le rappeler. Le planning familial, c'est aussi l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc cet enseignement-là, cette éducation, elle est obligatoire. C'est pas, les élèves doivent assister à ces séances. Ça fait partie des programmes.
J'avais écouté un podcast cet été, je crois, sur un hors-série du Cœur sur la table, où elle parlait d'une classe, mais là c'était des petits, hein,
oui,
où
ils
parlaient zizi.
C'est quoi l'amour maîtresse, je crois.
Voilà, c'est ça, c'est magnifique. Écoutez-le si vous ne l'avez pas écouté, c'est génial. Et ça pose aussi les obstacles qui se posent à ce genre de projet, notamment les parents, hein, parce que le plus gros obstacle, c'est aussi ça, l'éducation nationale, mais aussi les parents, surtout, hein, qui voient d'un très mauvais œil, des fois, ce genre de. Surtout,
c'est. Et les parents fâchent au cateau. Parce que bah, justement, il y a une ligne de une de Libé qui dit que en ce moment, il y a des groupes de parents d'élèves extrémistes qui essayent justement d'empêcher.
Vous avez pas aux enfants, quoi. Connu ça sur ce groupe-là, en tout cas.
Non,
peut-être que là, ça se pose moins, mais
on l'a pas connu, mais on a quand même eu des réticences de la part des élèves sur le nom du club. Nous, au départ, professeurs, enfin, on avait proposé de l'appeler Joliot s'exprime. Voilà, petit jeu de mots. Et c'est vrai que dès le premier rendez-vous, comme pour pouvoir participer à un club, nos élèves sont censés avoir l'accord de leurs parents, parce que comme ça se passe sur hors temps scolaire, voilà. Et c'est vrai qu'ils nous ont tout de suite dit est-ce qu'on pourrait pas changer le nom, parce qu'on n'est pas sûr que nos parents acceptent. Donc voilà, donc le Joliot s'exprime est devenu le club ado, qui était un peu plus consensuel.
Ok.
Ce qui veut dire que le dialogue avec les parents sur le sexe, ça a encore l'air d'être chouette.
Ouais, ça sera une prochaine étape. Je pense.
Ouais.
Je pense que les parents préfèrent que ça soit fait à l'école que forcément que c'est eux qui le fassent, parce que ça peut être compliqué de parler de sexe à ses parents.
Il faut les faire dans ces
cas-là. Bah oui, c'est ça.
Ouais, il y a les deux, quoi.
Je vous fais un jingle agenda à la bouche. Agenda.
C'était magnifique, ça.
Voilà, ça c'est fait. Donc, alors, on parlait tout à l'heure du club de lecture, ou du groupe de lecture du planning familial.
Ouais.
Donc, il aura lieu vendredi à 19h dans les locaux, donc la MVA bureau 307.
Oui.
Et le thème, c'est
désir d'enfant.
En sachant qu'on doit ramener un bouquin et qui parle de désir d'enfant ou de non-désir d'enfant.
Tout à fait.
Le terme est large.
Oui.
Et vous en discutez. Et si vous voulez faire un don à ce moment-là pour la cagnotte, c'est aussi possible.
Oui.
Et vous pouvez ramener de la nourriture, c'est sympa.
Oui, c'est ça, un petit moment convivial. On échange sur des bouquins, des lectures. C'est sympa.
Vous avez encore le temps de lire, vous.
Ouais. En rendez-vous plutôt queer à Reims en novembre.
Rien.
Du 5. Mais si.
Il y a le manège.
Du 5. Alors, le manège, qui est déjà un endroit très queer de base. Mais du 5 au 16 novembre, il y a le festival du Born to be Alive, qui rajoute encore plus de queer à la queerness. Oh, ah, si, quand même. Si tu vois par rapport aux autres structures culturelles, on est déjà. Ils ont rajouté le drag cette année dans les trucs qu'ils font. Donc, tu vois, c'est canonique maintenant.
C'était pas déjà le cas avec les formats cabaret et tout?
Oui, mais maintenant, c'est vraiment
dans l'identité.
Là, dans Born to be Alive, il y a un cabaret drag.
Ouais.
12 travelots.
Ça promet d'être sympa. Nous, on met en avant un spectacle qui sera sûrement très, très féministe, si pas queer. C'est le nouveau spectacle de Marinette Dosville. On vous donne un rendez-vous sur les ondes le samedi 2 novembre. À partir de 18h, Marinette, elle sera là pour faire un mix.
Ouais, elle va nous passer la musique.
Elle va nous passer du son en lien avec la création du spectacle. Soit des sons qui l'ont inspiré, soit des sons de ses collaboratrices qui sont sur scène avec elle. Et puis après, on aura quelques minutes pour parler un peu du spectacle. Si vous voulez venir,
vous
pouvez venir au studio de Radio Primitif pour rencontrer Marinette, écouter sa playlist, assister à la petite interview. N'hésitez pas à nous appeler en amont, par contre, parce qu'on n'a pas, enfin voilà, on aime bien
place,
savoir,
mais...
voilà, on aime bien savoir qui est-ce qui va venir, et donc ça servira de tremplin déjà pour connaître un des spectacles de cette programmation 2024 de Born to be Alive.
Et pour le côté conférence, bah, tout, je crois que c'est en lien avec le festival. Le 14 novembre, il y aura une conférence « Penser les autres, les femmes dans les créations artistiques » qui sera organisée donc, par le Manège dans les locaux de la fac de
Sciences Po.
Merci. J'avais un peu de mal. Alors attention, il faudra se préinscrire parce qu'il faut votre place pour pouvoir rentrer dans l'entre de Sciences Po. Mais ça risque d'être intéressant. Moi, je vais essayer d'y aller parce que ça a l'air cool. Et
toi, t'as voilà. des trucs de prévu, Lo
Eh ben, écoutez, pendant je vais beaucoup manège. J'ai déjà réservé 3 trucs pour le festival du Born to Be Alive.
je vais aller voir
Marinette Dozville aussi sur les conseils de Gwen. Et je vais aller voir. Je crois qu'il ouvre. Enfin, qui fait pas l'ouverture, mais le premier spectacle, c'est Aurélien Barraud ou Louis Barraud. J'ai oublié son nom. Louis Barraud, qui est un chorégraphe gay. Qui fait 3 concertos pour Bartok, donc il a repris les œuvres de Bartok et il a fait des chorégraphies dessus. Et en fait, il s'avère qu'il est passé l'année dernière en répétition publique au Manège et je suis allée le voir. Donc la boucle est bouclée là.
Super, donc tu vas voir le après en fait.
C'est
vachement intéressant de voir les étapes de travail et puis après de voir comment ça termine quoi.
Carrément, c'est une expérience que je conseille, d'autant plus que les répétitions publiques sont gratuites au Manège.
Bah ouais, on a fait Nuña Santés nous l'année dernière avec Wet Songs.
Oui.
C'était magnifique. Donc, c'est le
étrange, mais magnifique.
Oui.
Mais j'avoue, je ne sais pas trop
ce que ça va donner, moi non plus.
Vont aller, mais on verra, on verra. Mais ça risque d'être drôle.
Hors de Reims, il n'y a pas des trucs Ah non, ça sera passé.
Oui, ça sera passé. Là, si vous avez Halloween, Halloween, comme on l'appelle ici.
Oui.
Donc, pensez à gwiniser, pensez à regarder des films d'horreur.
Alors, le principe de Halloween, c'est que tu te retrouves avec toutes tes potes gwyn, et puis tu fais de la bouffe d'Halloween, et tu mates des films d'horreur. C'est ça, mais juste avec des gwyn dedans.
T'es pas juste obligé.
Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. Du coup, tu regardes le même film tous les ans, jusqu'à ce que les cinéastes s'emparent du sujet. Bonk.
Non. Il y en a maintenant, enfin je crois qu'il y en a un peu.
Des films de lesbiennes ou vampires.
Moi j'avais vu un Schlasser avec Alice de Elward. Tiens, comme ça on cite Elward pour cette émission. Et, mais je n'arrive pas à le retrouver, mais je suis sûr que j'ai vu ce film.
Appel à l'aide, que si vous avez le lien vers ce film, vous ferez le bonheur de Gwen pour Halloween.
Je crois que c'est une retraite de meuf dans une forêt en Amérique. Et bien sûr, il y a toujours un tueur en Amérique et du coup... Elles se font un peu tuer, puis après elles se vengent. Et de souvenir, il était cool. Et je crois qu'il y avait au moins 2-3 lesbiennes dedans.
C'était quoi le film de lesbiennes vampires là non, tu rigoles déjà, c'est mauvais signe. Mais si, le truc super vieux là.
Oui, mais non. Enfin, je sais pas
ok,
si vraiment,
on coupera.
Je sais pas si vraiment il peut être ce canon.
Non, mais c'est pas un X, je vous jure, c'est un vrai film. Non, je sais plus.
Non,
tu sais, elles sont plein de meufs, c'est un groupe, et puis elles font... Oh,
oui, je vois le truc.
Bref, on fera la promo dans un autre décor.
Envoyez-nous des mails avec tout ce que vous avez regardé ou trouvé, comme ça nous
avec des propositions pour Halloween, comme ça, on pourra les partager.
Nous, ça fait 15 ans qu'on le fait, alors du coup, on commence à arriver au bout. En tout cas, merci à nos invités. C'était très chouette de vous avoir avec vous... pour cette émission avec moi à la technique pour la première fois.
Yes, bravo Gwen.
Peut-être que je ferai mieux la prochaine fois, j'espère.
On vous donne rendez-vous le mois prochain, de toute manière.
Carrément. Avec un sujet pas encore
défini,
surprise.
Mais ça, c'est pas grave.
On verra.
Toujours avec plaisir. On se quitte avec du son ?
Claire. Ouais, une petite musique. Bah, on va te mettre la petite Dream Snails.
Dream Nails.
Dream Nails.
Alors, je l'ai déjà présentée plusieurs fois à l'antenne, mais elles sont venues à Reims il y a quelques années.
2 ans.
En première partie des Nova Twins. À l'époque, elles étaient 4. Il y avait déjà eu un changement de line-up. Et là, elles viennent avec un nouveau morceau. Et il y a encore un changement de line-up. C'est la bassiste qui a pris le chant cette fois-ci. Alors... Peut-être qu'il s'ennuie des fois, je pense que c'est ça.
Peut-être qu'il joue au dé, qui joue quel instrument.
Jackpot quoi qu'il en soit, elles sont revenues avec ce petit son qui s'appelle Control et qui est vachement sympa, toujours dans des textures... alors elles se définissent punk, mais je crois que c'est une mode. Il faut arrêter de faire ça. C'est du rock, pour moi, avec des refrains assez pop quand même. Et c'est ça qui est catchy avec les Dream Nails, c'est que ça reste pas mal en tête. Donc voilà, c'est nouveau, ça vient tout juste de paraître. Je crois que leur label, c'est Marshall Records, si je me trompe pas.
Ok, au mois prochain, du coup.
Salut.